diplôme ce week-end aussi comme partie intégrante de ces festivités, avec pas mal de diplômés, dont Benjamin qui préside aujourd'hui. Donc, merci de profiter de ces moments. Vous pourrez aussi visiter nos locaux fraîchement rénovés à la rue du Moniteur et découvrir le nouveau nom de l'Institut, le nouveau logo, le nouveau stand, la nouvelle vidéo de présentation préparée par Maëva de cette assemblée, de nouveaux produits au logo de l'Institut, un magazine spécial centenaire. Merci. Fin de page de publicité, mais on espère pouvoir vous accueillir. La lecture maintenant de la parole de Dieu, l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole précieuse. Nous te louons de ce qu'elle est vivante et efficace, de ce qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Permets-nous de ne pas endurcir notre cœur ce matin. Parle-nous, transforme-nous, fortifie-nous pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, comme disait Benjamin, c'est plus ou moins la rentrée et le passage biblique qui m'a été affecté, qu'on vient de lire là, est particulièrement propice à la rentrée. Mais ce n'est pas un passage comme vous l'aurez pu apprécier, ce n'est pas un passage qui va tout de suite nous caresser dans le sens du poil. Voici en effet un propos rude qui nous brusque peut-être, mais qui est réaliste. Ce n'est pas parce que tu es assis là, et que tu professes aujourd'hui la foi en Jésus-Christ, que tout ira bien pour toi lors du jour du jugement. Ce n'est pas parce que tu es assis là et que tu professes aujourd'hui la foi en Jésus-Christ que tout ira bien pour toi lors du jour du jugement. Car nous avons besoin de persévérer. Deux versets clés de notre passage, les versets 35 et 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il y a deux termes clés là. D'abord, assurance. Assurance. J'emboîte le pas à un commentateur en utilisant un terme composé en français, comme vous pouvez voir si vous souhaitez suivre en utilisant le plan. Assurance hardiesse. Assurance hardiesse. C'est à cette assurance hardiesse que nous sommes appelés ce matin. Selon les contextes, le terme en question peut connoter l'assurance dans le sens de liberté, mais aussi l'assurance dans le sens de courage. La liberté de s'approcher de Dieu et le courage d'afficher sa foi. Et dans ce chapitre, nous trouvons les deux sens. Juste avant notre passage, relevez avec moi le sens de liberté dans le verset 19. 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Mais dans le verset 35, il est plutôt question du sens courage. Ce qui recoupe un autre aspect de ce que nous trouvons juste avant notre passage. Je vais lire le verset 23, chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Cette assurance hardiesse est la norme pour le croyant, pour la croyante en Jésus-Christ. Jésus a subi la punition que nos fautes entraînent, ce qui fait que le Dieu parfaitement saint n'est plus en colère contre nous. Et par conséquent, nous jouissons de cette assurance qui nous accepte. Nous nous approchons de lui sans crainte. Nous avons cette liberté auprès de Dieu dans la prière. Et cela va de pair avec un certain courage pour vivre notre foi publiquement, pour afficher notre couleur, pour rester attaché au Christ même face au rejet. Une assurance dans la foi auprès de Dieu, une hardiesse dans la foi auprès des non-croyants. Ça, c'est notre visée pour cette année académique qui s'ouvre. Cette assurance hardiesse, mais pas seulement. Autre terme clé, dans le verset 36, la persévérance. Autrement dit, notre assurance hardiesse doit être vécue dans la durée. Je vais vous montrer cela aussi dans le contexte, donc à partir du verset 23. Chapitre 10, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et notre passage du chapitre 10 commence par un car qui explique donc ce qui est en cause dans cette poursuite de l'assurance hardiesse dans la durée. Il est là pour favoriser la poursuite de l'assurance hardiesse dans la durée. Et c'est un passage qui a une pertinence particulière pour nous qui vivons notre foi dans un contexte hostile en Europe. Il y a des parallèles entre les circonstances des destinataires de cette lettre et nos circonstances. La liberté de religion est de moins en moins garantie pour nous et force est de constater que nous pouvons nous aussi nous attendre à l'opposition si nous affichons clairement notre appartenance à Jésus-Christ cette année. Il suffit de parler aux gens dans la rue pour voir la réaction des uns et des autres lorsqu'on parle du péché, du jugement. Il suffit d'insister sur le fait que les personnes juives et musulmanes ne sont pas dans une juste relation avec Dieu du fait de leur rejet de Jésus-Christ. Il suffit de préciser que la pratique homosexuelle est une perversion. Bref, si nous sommes fidèles aux Écritures, aux messages du christianisme, nous pouvons nous attendre à ce que notre vie chrétienne soit difficile. Nous sommes minoritaires, nous sommes marginalisés, nous sommes souvent méprisés. Et dans de telles circonstances, le risque pour nous, c'est d'avoir honte de l'Évangile, de refuser de confesser le Christ comme notre Seigneur, de ne pas continuer sur la voie qui mène au salut. Et la lettre aux Hébreux a été écrite afin de fortifier des croyants qui perdaient courage face à l'opposition. Notre passage nous enseigne qu'ils ont été insultés, incarcérés, privés de leurs biens à cause de leur foi en Jésus. Et petit à petit, certains croyants ont commencé à prendre la distance avec la communauté chrétienne, à ne plus s'identifier clairement à Jésus. Les chapitres 5 et 6 nous disent qu'ils sont devenus nonchalants et paresseux dans leur réflexion sur le Christ et dans leur foi. Et selon toute apparence, ce qui se passait, c'est que ces croyants voulaient se convaincre qu'être chrétien n'était finalement pas très différent que d'être juif, parce qu'ils pouvaient ainsi éviter la persécution. Ils étaient tentés d'endurcir leur cœur face à la parole de Dieu, de pactiser avec le monde. Et cela non seulement en matière de croyance, mais encore en matière de moralité. Les questions d'adultère et de convoitise sont évoquées à la fin de l'épître. Et comme eux, nous avons besoin d'entendre cet appel à favoriser la persévérance dans l'assurance hardiesse cette année. Cela par trois moyens qui émergent de notre passage. D'abord, en reconnaissant le caractère terrifiant du jugement. En reconnaissant le caractère terrifiant du jugement. Terrifiant ou terrible, c'est le mot que nous trouvons à la fois au verset 27 et au verset 31. Et les propos sont choquants. Verset 27. Une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parfois, on entend l'idée, est-ce que vous avez entendu cela, vous? On entend cette idée comme quoi, dans l'Ancien Testament, Dieu est présenté comme étant un Dieu qui se met en colère, alors que dans le Nouveau Testament, il s'agit d'un Dieu qui est plein d'amour. La réalité, c'est qu'il ne change pas. C'est un Dieu saint et un Dieu d'amour. Et cette sainteté et cet amour se manifestent tout au long de l'histoire du salut. Ce qui est vrai, c'est que et la manifestation de sa sainteté et la manifestation de son amour montent d'un cran lorsqu'on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, plus exactement, la façon dont Dieu agit envers les Israélites dans le cadre de l'ancienne alliance correspond à une sorte de maquette ou d'ombre ou d'image de la façon dont Dieu agit dans le cadre de la nouvelle alliance. Autrement dit, sa sainteté et son amour sont davantage prononcés, marquants, mis en valeur en rapport avec la mort de Jésus-Christ sur la croix et en rapport avec le dernier jugement. C'est exactement comme cela que l'auteur raisonne ici, verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Dans l'Ancienne Alliance, certains péchés étaient trop graves les péchés commis à main levée, tels que le meurtre et l'adultère, ne pouvaient donner lieu à un sacrifice procurant le pardon. Le fautif devait être soumis à la peine de mort. Dans la nouvelle alliance, il y a un péché qui est trop grave, et c'est rejeter Jésus-Christ. Ce péché-là ne pourrait donner lieu à un sacrifice procurant le pardon. Le fautif doit être condamné en enfer. Si notre maison est en train de brûler et qu'au moment de la venue des pompiers, nous leur refusions l'accès à la maison et que nous les poignardions avec un couteau acéré, quel va être le résultat pour notre maison? Si nous foulons aux pieds le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour le pardon des péchés, il n'y a plus de solution pour le pardon de nos péchés. Comment échapperons-nous à la juste rétribution si nous négligeons un si grand salut? Le chapitre précédent l'a précisé, chaque être humain doit faire face au jugement. Il est donc de mise que j'appelle chaque personne dans cette salle à s'apprêter au jugement. Il est de mise que j'avertisse chaque personne que, verset 31, tomber entre les mains du Dieu vivant est une chose terrible. Il est de mise que je précise que le Dieu qui a jugé par le passé jugera dans l'avenir, mais de façon plus terrifiante encore. Mais afin d'être dans le droit fil de notre passage, je dois m'adresser prioritairement aux personnes dans la salle qui se disent croyantes en Jésus-Christ. Vous me répondez, pas de stress, James. Je suis sauvé. J'ai compris le message de la croix. Du calme. Moi, je vous réponds ainsi. Durant mes 30 et quelques années de vie chrétienne, j'ai connu pas mal de personnes qui semblaient être des croyants mûrs, solides, sérieux, mais qui aujourd'hui ne font plus partie d'une église locale, qui ne professent plus la foi en Jésus-Christ et qui parfois tiennent des propos violents à l'encontre de la vérité biblique. Je pourrais citer des exemples de nos milieux. J'ai décidé de ne pas le faire parce que je ne pense pas que ça aiderait ces personnes à se repentir. Je vais donc choisir un exemple assez connu, assez public, de ma ville universitaire d'Outre-Manche. Il s'agit du pasteur et prédicateur principal d'une église qui drainait du monde lorsque moi j'étais à l'UNIF là-bas, notamment des étudiants, une église qui était en train de devenir un centre évangélique important pour tout le pays de la Grande-Bretagne. Le pasteur adjoint de l'église que moi je fréquentais disait qu'il fallait aller dans cette autre église parce que les prédications étaient tellement remarquables. Alors c'est le début du stage de Benjamin, je ne sais pas si Benjamin va tenir ce type de propos cette année pour nous. Il ne faut pas venir dans cette église, il faut aller dans cette autre église où la prédication est vraiment extraordinaire. Non, j'espère pas. Mais ce pasteur, il était remarquable, il a écrit une douzaine de livres appréciés, il est devenu un orateur de choix lors des conventions, il a rempli un rôle en tant que responsable du milieu évangélique britannique au sein d'un organisme qui s'appelle l'Alliance évangélique. Or, une dizaine d'années après mon départ de l'UNIF, ce pasteur prédicateur a quitté son ministère, a divorcé avec son épouse et s'est mis en couple avec un autre homme. Il est dans cette relation depuis 20 ans maintenant. Auparavant, ce pasteur croyait que la pratique homosexuelle était un péché. Et la Bible est claire là-dessus, et il a prêché dans ce sens. J'ai prié pour lui cette semaine, en préparant cette prédication, j'ai prié pour sa repentance, car verset 26. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Si vous allez sur le site de la Rébellion, vous allez pouvoir lire un autre exemple semblable, beaucoup plus récent, d'un pasteur influent aux États-Unis, auteur de livres encore une fois, Joshua Harris. Il a changé son point de vue sur l'éthique sexuelle, il a annoncé la fin de son mariage, il affirme même ne plus être chrétien. Mais pour la plupart des autres cas que j'ai en tête, c'est moins spectaculaire, moins dramatique dans un sens que pour ces pasteurs, mais c'est quand même choquant. Des personnes qui connaissaient bien l'Évangile, mais qui n'ont pas voulu faire face à des péchés flagrants dans leur vie, et ont préféré juste partir. Des personnes qui étaient des modèles de bonne application dans l'Église, mais qui ont cessé de venir à l'Église et ont fini par rejeter la foi chrétienne. Des personnes qui sont finalement trop attirées par le monde pour s'intéresser à Dieu, à l'Église, à la vie éternelle. Peut-être que tu as peur. Tu as raison de comprendre que le jugement est terrifiant. Tu as raison de vouloir l'éviter. Peut-être que tu es en train de te dire, « Non, je sais que je suis rebelle. J'ai commis un péché flagrant cette semaine. Je vais peut-être être condamné comme l'indique le passage et j'en ai peur. » Les personnes ayant profité de cet été du livre de Pascal Denot savent comment répondre à cela. Nous répondons en posant cette question. Est-ce que tu es repentant? Est-ce que tu luttes contre le péché en question? As-tu le souci de tourner le dos à tout péché? Eh bien, si oui, tu peux connaître la liberté d'accès auprès de Dieu qui t'a pardonné grâce au sang de Jésus-Christ versé pour toi. Je te montre ça. Chapitre 9, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Chapitre 10, verset 17. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà cette assurance que tu peux connaître parce que la mort de Jésus a été efficace pour procurer le pardon de nos fautes. Et dans quelques instants, nous allons avoir le privilège de nous souvenir collectivement de la mort de Jésus en prenant le repas du Seigneur ensemble. Mais avant cela, nous pouvons savoir que notre persévérance dans l'assurance hardiesse est aussi favorisée en valorisant les luttes que nous avons menées par le passé. Deuxième point, valorisons les luttes du passé. Les versets 32 à 35. Plusieurs d'entre nous, nous connaissons des anciens musulmans qui, en devenant croyants en Jésus-Christ, ont eu peur pour leur vie. Le genre de cas de figure qui rejoint nettement ce qui est évoqué dans les versets 32 à 34. Souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Comme pour nos amis musulmans qui ont eu peur mais qui n'ont pas perdu leur vie, ces personnes, semble-t-il, n'ont pas perdu leur vie mais ont dû souffrir grandement de cette façon. Qu'en est-il de nous? Je suis conscient de ce que, pour la plupart d'entre nous, il n'est pas, nous ne pouvons pas nous rejoindre si directement ou si aisément les propos que je viens de lire. Mais, nous qui sommes croyants depuis un certain temps, nous pouvons mettre le doigt sur quelques décisions que nous avons prises dans le passé, qui nous ont coûté quand même cher. Et nous avons dû faire preuve d'une certaine assurance, de courage, de hardiesse. Un tout petit exemple que plusieurs d'entre vous partagent. Je pense à ce que ça m'a coûté lorsqu'au début de ma vie chrétienne, j'ai dû dire à mes parents, en fait non, je vais aller à l'église. Je pense à une femme que je connais, un médecin qui, au début de sa carrière, a contré les ordres de son chef, pour raison de conscience, pour rester clean vis-à-vis de Dieu. Elle était prête à perdre son emploi dans l'hôpital. Je pense à une autre femme qui a été rejetée par une voisine du fait de vouloir inviter les enfants de cette voisine à un club biblique. Adulte, tu refuses de mentir à tes clients peut-être. Et parfois ça c'est courageux, parfois ça te coûte cher. Enfant, tu es prête à subir peut-être un peu de moquerie à l'école. Des camarades de classe qui n'apprécient pas tes croyances. Tu ne crois pas ça par rapport à un mariage? Si, si, tu dis. Un homme et une femme. Je pense que la Bible dit vrai. Ou encore, on t'a vu? On t'a vu aller à l'église dimanche? C'est pas très cool ça? En fait, oui, j'adore Jésus-Christ. Tu es bizarre. Tu ne crois pas que Dieu a créé le monde quand même? Moi, je crois à la science. Si, je crois. Persévérons. Persévérons dans l'assurance hardiesse cette année. Rien que pour rentabiliser toutes les fois où nous avons souffert pour le nom du Christ. Si nous avons pris position par le passé, ne jetons pas tout cela par la fenêtre. Mais restons dans cet axe. Et n'oublions pas que la lutte va connaître un terme. Voici en effet la dernière façon de favoriser l'assurance hardiesse cette année, en anticipant sur la récompense promise. En anticipant sur la récompense promise. On va lire à partir du verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il suffit de tenir encore un peu. L'attente ne sera pas longue. Vers le début de ma vie chrétienne, j'ai lu un livre qui parlait du fait qu'il fallait persévérer, mais qu'il ne fallait pas persévérer trop longtemps. Il y avait une formule dans le livre. Quelques étés et quelques hivers de plus, c'est tout. Avant d'être à la fin de la maison. À la fin de la course et à la maison. Et avec un ami, nous avons décidé de répéter régulièrement cette formule l'un à l'autre. Quelques étés et quelques hivers de plus, c'est tout. Et nous faisons ça régulièrement. Je l'ai revu cet été. Nous faisons ça régulièrement depuis 30 ans maintenant. Et je suis reconnaissant pour toute aide destinée à m'encourager à rester dans la course, à fixer les yeux sur la fin, à fixer les yeux sur Jésus qui va revenir, à fixer les yeux sur le prix. Oui, le verset 35 parle d'une grande rémunération. Personne ne sera déçu à la fin de la course de la foi. Une grande rémunération nous attend. C'est quoi cette rémunération? Je pense que la meilleure réponse que je sache donner à cette question, c'est de vous encourager à lire l'intégralité de l'Épître. Parce qu'il est difficile de faire justice en quelques secondes à toutes les images qui sont déployées dans cette Épître pour décrire l'avenir glorieux qui nous attend. Il parle de repos, de perfection, d'une cité qui a de solides fondations, d'une patrie céleste, d'un royaume inébranlable. Je vous encourage à savourer les propos de l'auteur. Pour le moment, je dois juste me contenter d'attirer votre attention sur ce qui se trouve directement dans notre passage concernant cette récompense qui nous attend. C'est le verset 35 verset 34 qui parle de bien meilleur et qui dure toujours. Avant de devenir croyant en Jésus-Christ, j'avais un côté fort matérialiste et j'étais très sûr de moi. Et je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un ami de mon père lorsque j'avais 18 ans. Donc moi j'avais 18 ans, il avait 50 ans environ. Et dans cette conversation, j'étais en train de me vanter de la qualité de mes chemises, le fait que mes chemises coûtaient tellement cher et de leur marque, leur modèle. Je me souviens d'avoir même fait broder mes initiales. Donc là, je pense que l'expression technique pour ça, c'est une chemise monogrammée. Ce monsieur, il me voyait là, et il n'était pas croyant, mais il avait un peu plus d'expérience de la vie que moi. Et il m'a juste posé cette question. Toutes ces chemises, James, tu t'attends à ce qu'elles durent combien de temps? Et j'étais tellement sincère, mais à vie! Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire concernant ces chemises-là? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Alors j'ai essayé de me fatiguer mes ménages, c'était même pour me souvenir de ce qui s'est passé. Je peux certifier que ces chemises n'existent plus en tant que chemises, en tout cas pas chez moi. Et je pense que ça fait des décennies que c'est le cas. Notre héritage dans un monde parfait n'est pas comme ça. La récompense promise à celles et ceux qui persévèrent dans l'assurance hardiesse est solide, durable, éternelle. Mais les épreuves qu'entraîne la vie chrétienne peuvent être rudes. Nous avons donc besoin d'anticiper sur la récompense promise. Nous avons besoin de persévérance, nous dit l'auteur, verset 36. Nous avons besoin de faire preuve de foi. Et là, dans le verset 38, l'auteur puise dans le livre d'Habacouc et il cite « Mon juste vivra par la foi ». Et dans le contexte d'Habacouc, il est question de continuer à tenir bon face à l'adversité. Ça, c'est le défi auquel nous nous trouvons. Que Dieu nous donne cette année de nous encourager réciproquement afin que nous ne soyons pas, verset 39, de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Tu me demandes, là, en lisant le verset 39, James, est-ce que tu es en train de dire que je pourrais perdre ma foi? Parce que j'ai toujours compris, à partir de la Bible, que Dieu promet de nous garder jusqu'au bout. La réponse que donnerait notre passage, c'est « Sois sur tes gardes. Ne perds pas ta foi. » Persévère dans l'assurance hardiesse. tu persistes en me demandant, mais est-ce que je pourrais perdre ma foi?
Moi, je persiste en insistant à partir de ce passage.
Ne le fais pas.
Reste dans la course.
Tu persistes en me demandant,
mais est-ce que je pourrais perdre ma foi?
Et à ce moment-là, je demande un entretien privé avec toi afin qu'on puisse discuter. Parce que je voulais savoir pourquoi tu poses la question. Si c'est parce que tu veux entretenir tel ou tel péché, sachant que tout ira bien, moi je te réponds en citant les versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorerait les rebelles. Si la raison pour laquelle tu poses la question « Est-ce que je pourrais perdre ma foi ?» c'est que tu veux fuir le péché, mais que tu connais ton cœur et tu as peur de te trouver condamné, je te réponds en soulignant que le sang de Jésus a suffi pour ton salut, que tu as un libre accès au trône de la grâce et que Dieu ne va jamais te délaisser, ne va jamais t'abandonner. Et il le promet dans le dernier chapitre de cette épître. Quelqu'un d'autre me demande.
James, tu pourrais pas juste répondre par un oui ou par un non? Un croyant peut-il, oui ou non, perdre son salut?
Réponse, oui, je pourrais.
Et je me permets de m'exprimer avec clarté sur ce point,
parce que je pense que la réponse biblique est claire.
Mais je ne romps pas la communion fraternelle avec les personnes qui adoptent un point de vue autre que le mien sur cette question.
Notre passage du chapitre 10 est un autre au sein de cette épître au chapitre 6, sont probablement les deux preuves phares citées par certains évangéliques, dans le sens de dire que oui, je cite un auteur, « Il est tristement possible pour un chrétien d'apostasier de la foi et de se perdre. » Et deux données de notre passage laissent penser qu'il s'agit de vrais croyants qui ont reçu la connaissance de la vérité, verset 26, et qui ont été sanctifiés, verset 29. D'autres évangéliques, dont moi, sont conscients de la très grande quantité de promesses dans le Nouveau Testament et de leur clarté impressionnante, dans le sens de dire que le croyant ne pourra jamais perdre son salut. Par exemple, Jésus qui dit que ses brebis ne périront jamais, que personne ne les arrachera de sa main, que personne ne peut les arracher de la main du Père. Ça, c'est Jean 10, juste à titre d'exemple. Vous me demandez, mais comment est-ce que ces évangéliques-là, comment est-ce que toi, expliques ce passage d'Hébreux 10 qui affirme qu'un croyant peut perdre son salut?
Mais attention, notre passage n'affirme nulle part
que les vrais croyants peuvent perdre leur salut. Il y a une mise en garde contre cette perte de salut, mais pas d'affirmation comme quoi cela pourrait arriver. Pourquoi alors la mise en garde, vous me demandez? À quoi est-ce que ça pourrait servir? C'est pas très logique.
Pour y répondre ainsi,
Dieu utilise cet avertissement justement pour garder les vrais croyants sur la bonne voie. Et il est dangereux de ne pas en tenir compte. C'est comme lorsqu'on fait de l'alpinisme. Il arrive que l'on tombe sur des panneaux, parois dangereuses, chute de rochers, danger de mort. Comment est-ce qu'on réagit? On tient compte de l'avertissement et on évite le chemin en question et on évite la mort. Ou encore lorsque notre fille Clara était plus jeune, je pouvais crier. Ne va jamais sur la route sans tenir la main d'un adulte, tu as compris? Et elle est là un peu peur de moi sur ce rapport peut-être. Mais elle tient compte de ce que je lui dis. Elle n'est pas renversée par la voiture. Et Dieu utilise de même des avertissements pour nous sauver, pour nous garder sur la voie qui mène au salut. D'autres qui, comme moi, sont persuadés qu'on ne peut pas perdre son salut, vont expliquer notre passage en mettant surtout en évidence le fait que les personnes qui subissent le châtiment éternel n'étaient pas des vrais croyants au départ. Oui, ils étaient venus à comprendre l'Évangile. Oui, ils étaient sanctifiés au sens de faire partie, en apparence, d'une communauté chrétienne. Et par endroit, l'apôtre Paul utilise le langage de sanctification en rapport avec des non-croyants. Ce serait donc pareil ici. Oui, ces personnes semblaient faire l'affaire en tant que croyants en Jésus-Christ. Et dans cet épître, il y a les vrais et les faux. Au sein de cette communauté à laquelle s'adresse l'auteur, il y a ceux qui persévèrent et ceux qui abandonnent. Parmi les destinataires, il y a ceux qui ont la foi et ceux qui risquent d'avoir un cœur incrédule qui se détourne du Dieu vivant. Chapitre 3. Chacun doit répondre à l'exhortation à persévérer dans l'assurance hardiesse. Quelle que soit la meilleure explication de notre passage, si l'on a la vraie foi, on ne perdra pas son salut. Mais écoutez bien, dans la perspective de cette lettre, l'unique vraie foi est justement la foi qui persévère. Écoutez, je vais vous lire deux versets du chapitre 3. Christ est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Autre verset du chapitre 3. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Si nous avons la vraie foi, nous allons persévérer. Selon la fin du chapitre 7, Jésus est même là en train d'intercéder pour nous qui avons la foi, afin que nous persévérions, n'est-ce pas, encourageant. Dieu ne va pas nous abandonner. Je conclue. Il y a 20 ans, j'ai eu une conversation avec un croyant en Australie qui se formait en vue du ministère pastoral. Il m'a expliqué qu'il avait compris qu'on ne pouvait pas perdre son salut et que du coup, lorsqu'il tombait sur des passages d'avertissement tels que celui que nous avons considéré aujourd'hui, lorsqu'il tombait sur ces passages dans son cul perso, il les sautait. Parce qu'il savait, disait-il, que ces passages ne s'appliquaient pas à lui. Et si je pouvais avoir cette conversation avec lui maintenant, ce que j'aurais envie de lui dire, c'est « Je suis d'accord avec toi qu'on ne peut pas perdre son salut si l'on est un vrai croyant. La doctrine de la sécurité éternelle est très précieuse. Comme toi, je la valorise à fond, cher frère. Mais elle peut être sujette à des abus. Et l'une des caractéristiques des vrais croyants, c'est justement qu'ils prennent les avertissements au sérieux. Bref, nous avons entendu un appel ce matin à persévérer dans l'assurance hardiesse cette année. Personne ne dit que ce soit facile dans notre contexte européen. C'est pourquoi nous avons besoin de nous laisser encourager dans notre foi. Il y a une foule de frères et sœurs qui ont persévéré dans la foi avant nous. À l'occasion du centenaire de l'Institut, nous avons été immergés dans les archives. Et ça fait du bien à l'âme de constater à quel point des prédécesseurs dans le travail de l'Institut ont persévéré face aux épreuves, oppositions théologiques, moqueries, difficultés matérielles et santé et autres. Et s'agissant de la foule de personnes qui ont tenu bon, il y a un long chapitre qui présente personnage après personnage qui a fait preuve d'assurance hardiesse à
toutes, face à toutes sortes de difficultés. N'est-ce pas extraordinaire de pouvoir étudier ce chapitre-là pour nous, afin de nous voir booster dans notre assurance RDS cette année? Eh bien, ce sera notre privilège. La semaine prochaine, c'est notre pasteur Steve qui apportera le message sur Hébreux 11. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, il y a toutes sortes de personnes dans cette salle et il y a des personnes qui ont particulièrement besoin d'entendre les avertissements de cette épître. Et nous te demandons d'être puissamment à l'œuvre par ton Saint-Esprit pour leur accorder la repentance. Il y a d'autres qui ont besoin de savoir qu'elles ont cet libre accès à ton trône de grâce et que tu les accueilles à bras ouverts grâce au sang de Jésus qui a coulé en leur faveur. Et nous demandons, notre Père, que pour toute personne dans cette salle, nous reconnaissions le caractère terrifiant du jugement, que nous valorisions les luttes que nous avons menées par le passé et que nous anticipions sur la récompense promise et en persévérant dans cette assurance hardiesse à laquelle tu nous appelles ce matin. Demandons cela pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen.
Merci, cher James, pour cette prédication pour tous.